Bonjour. Augmenter le prix de la vignette autoroutière de 40 à 100 francs ou augmenter le prix des billets de train, Doris Leuthard a mis ses projets en consultation aujourd'hui. Les usagers devront donc mettre la main au porte-monnaie. Décryptage de ces mesures avec Pascal Jeanneret et nous recevrons Caroline Beglinger, responsable pour la politique des transports à l'association Transport et Environnement. La compatibilité des initiatives populaires avec le droit international pose des problèmes. Exemple avec l'initiative sur les minarets ou celle sur le rétablissement de la peine de mort en Suisse. Pour y remédier, le gouvernement veut notamment renforcer l'examen préalable de ces initiatives, nous dira Vincent Bourquin. Une lettre piégée a fait 2 blessés ce matin dans les bureaux de Suisse Nucléaire à Olten. L'explosion s'est produite lors de l'ouverture du document. Les précisions de Delphine Jean dans un instant. Et nous évoquerons aussi dans ce journal les 910 millions de francs de bénéfices pour la Poste en 2010, en hausse de 25%. Nicolas Sarkozy est revenu ces dernières semaines sur le devant de la scène internationale avec le conflit en Libye, mais aussi au Japon, où il se trouve en ce moment et où il multiplie les déclarations. Le journaliste Gilles Labarthe est fondateur de l'agence de presse indépendante Datas à Genève. Il s'est intéressé aux relations internationales de Nicolas Sarkozy, précisément à ses relations avec l'Afrique dans son livre Sarko l'Africain. Il sera notre invité dans ce journal. Journée nuageuse avec de la pluie possible par endroits, température 16 degrés. Dès demain, soleil et douceur sur toute la Suisse romande avec des températures atteignant 24 degrés samedi. Météo de Ruckfoscher dans une demi-heure. Et on va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Dans le canton de Fribourg, suite à un accident sur la route principale Vaux-Rue-Romont, la circulation n'est pas possible entre la croisée de Salles et Wüsternance devant Romont. La réouverture de ce tronçon devrait se faire autour de 13h. Doris Leuthard a présenté ce matin son projet de financement des infrastructures, désormais mis en consultation. Comme annoncé en janvier, le projet promet des hausses de prix pour les utilisateurs du rail et de la route. La hausse de la taxe sur l'essence est pour l'heure suspendue, mais la vignette passerait de 40 à 100 francs et les automobilistes ne pourraient plus déduire de l'impôt fédéral direct que 800 francs de frais de transport. Les billets de transport public augmenteraient de leur côté de plus de 10% et les cantons seraient aussi appelés à payer plus, Pascal Jeanneret.
Les usagers de la route seraient frappés d'une hausse du prix de la vignette. Celle-ci passerait, vous l'avez dit, à 100 francs. Avec 40 francs, il serait possible d'acquérir une vignette pour 2 mois. La possibilité d'une vignette électronique, ça c'est nouveau, est également envisagée. Du coup, la vérification de l'autocollant serait remplacée par un système de reconnaissance électronique des numéros de plaque. Cette hausse de la vignette rapporterait 275 millions de francs. Mais Doris Leuthard a renoncé à l'assortir tout de suite d'une hausse de 7 à 10 centimes du prix de l'essence. Explication.
Ça reste le projet, mais ce serait pour une deuxième étape, si on veut aussi là encore travailler du réseau. Mais pour la première étape, avec les 400 kilomètres et l'aménagement du réseau existant, c'est encore pas prévu. Alors pas dans la première étape. Et naturellement, on a des questions dans la consultation si on préfère l'augmentation des impôts, mais je pense que la vignette sera plus acceptée.
Et en revanche, un plafonnement prévu à 800 francs de la déduction kilométrique que les pendulaires automobilistes peuvent faire valoir sur le revenu imposable d'impôt fédéral direct rapporterait 250 millions que la Confédération se propose d'utiliser pour contribuer au financement du rail. Pour les usagers des transports publics, c'est une hausse d'environ 10% du prix des billets qui est à attendre en raison de l'augmentation du prix des sillons que la Confédération facturera au CFF. La Confédération qui empochera du coup 200 millions de plus avec cette mesure, elle en attend aussi 300 de la part des cantons. Ce système de financement va désormais faire l'objet d'une âpre bataille politique, mais permettra de poursuivre le développement du réseau routier et ferroviaire, notamment des cadences au quart d'heure entre Genève et Lausanne dès 2025, confirmées ce matin par la ministre des Transports.
Pascal Jeanneret en direct de Berne, à vos côtés, Caroline Beglinger. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous êtes responsable pour la politique des transports à l'ATE, l'association Transport et Environnement. Tout d'abord, votre réaction à ces hausses, notamment sur la vignette par exemple, passer de 40 francs à 100 francs, est-ce que c'est une mesure suffisante selon vous?
C'est sûrement une mesure nécessaire, mais ce n'est pas une mesure suffisante à notre avis. Il faut dire que la vignette, elle n'a pas augmenté depuis très longtemps. Mais c'est déjà très bien de voir qu'on réfléchit en parallèle à la route et au rail. Je pense que de voir le système dans son ensemble, c'est déjà un très bon pas.
Vous voudriez plus que 100 francs pour la vignette auto ?
Nous, ce qui nous inquiète essentiellement, ce sont les augmentations pour les usagers du train et du bus. Il faut dire que le transport public, c'est vraiment une histoire de succès en Suisse. C'est des moyens de transport fortement utilisés et on pourrait les utiliser encore davantage. Et nous, on craint qu'avec une augmentation disproportionnée du rail par rapport à la route, on voit des gens de nouveau choisir la voiture au lieu de choisir le transport public.
C'est vrai que dans les augmentations, il y a des différences entre les hausses entre la route et le rail. Les hausses pour les automobilistes ne seront pas aussi hautes que pour les usagers du rail. On imagine là qu'il y a une certaine déception de votre côté.
Disons que le débat, il va commencer maintenant, mais effectivement, ça ne nous paraît pas être le bon chemin. Nous sommes convaincus que c'est le transport public qui est le moyen de transport de l'avenir, combiné à la mobilité douce. Quand on voit toutes les émissions que fait la voiture, il n'y a pas de raison de transporter une personne dans plusieurs tonnes. Donc effectivement, il faut miser sur le transport public et il ne faut pas augmenter d'une façon disproportionnée les prix.
Qu'est-ce que vous pensez de la contribution qu'on demandera au canton, un montant de 300 millions? Est-ce que c'est justifié selon l'avis de la TE?
La question sera essentiellement comment ou d'où les cantons vont-ils prendre cet argent? Parce que déjà maintenant, les cantons contribuent au financement des transports publics. Donc je pourrais m'imaginer que là, le débat, il va être intense et pas facile.
Et qui devra payer? C'est aussi la question qui va se poser ensuite.
Disons, pour nous, c'est clair qu'il faut voir les recettes qu'on génère au niveau des transports globalement et il faut les utiliser là où ils rapportent le plus d'utilité pour les Suisses et les habitants de la Suisse. Donc pour nous, ça serait d'utiliser l'argent massivement pour les infrastructures ferroviaires et pour le transport public, train, bus, etc.
Je vous remercie Caroline Beglinger d'être venue réagir à cette annonce donc de Doris Leuthard ce matin, responsable transport à l'association Transport et Environnement. Bonne journée.
À vous aussi, merci beaucoup.
Rétablir la peine de mort en Suisse par le biais d'une initiative, cela doit devenir impossible. Le Conseil fédéral considère qu'à l'avenir, toutes les initiatives populaires devraient être conformes à l'essence des droits fondamentaux constitutionnels. Dans un rapport présenté ce matin, le gouvernement propose également un examen accru des initiatives populaires, Vincent Bourquin.
L'internement à vie des délinquants dangereux, le renvoi des criminels étrangers, l'interdiction des minarets, autant d'initiatives qui ont suscité la polémique ces dernières années. Respectaient-elles vraiment la Constitution fédérale et les standards internationaux? Alors pour tenter de régler cette tension entre droit interne et droit international, le Conseil fédéral a publié ce matin un rapport qui préconise différentes mesures.
Vincent, avant toute récolte de signatures, le texte des initiatives serait davantage examiné?
Oui, aujourd'hui, seule la chancellerie effectue un contrôle formel. Si la proposition du gouvernement est acceptée, l'Office fédéral de la justice et la direction du droit international public examineront si cette initiative respecte bel et bien le droit international. Mais cet avis ne sera que consultatif et non contraignant. Les initiants seront ensuite libres de rendre leur texte conforme ou non. Les conclusions des juristes de la Confédération seront pourtant indiquées sur les listes des signatures pour que les citoyens puissent poser ou non leur paraphe en toute connaissance de cause.
Et le Conseil fédéral est aussi prêt à déclarer nulles certaines initiatives.
Oui, si elles ne respectent pas les droits fondamentaux constitutionnels, c'est-à-dire le noyau dur, inviolable de ces droits, comme par exemple le respect à la vie. Ainsi, une initiative pour le rétablissement de la peine de mort serait invalidée par le Parlement, qui aura d'ailleurs toujours le dernier mot. Par contre, sur la base de ce critère, l'initiative sur les minarets n'aurait pas pu être déclarée nulle. À noter encore que le Conseil fédéral a refusé d'inscrire dans la Constitution la prééminence du droit interne sur le droit international ou encore la création d'une cour constitutionnelle. Alors maintenant, ces propositions vont être transmises au Parlement.
Vincent Bourquin en direct de Berne. La Poste a réalisé l'an passé le meilleur résultat de son histoire. 2010 s'est conclu sur un bénéfice de 910 millions de francs, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente, grâce notamment à la reprise de la conjoncture. Une fois encore, Poste Finance a largement contribué à cet exercice record, Christelle Domingeau.
Il faut dire que les fonds ont continué d'affluer. 10 milliards sont venus grossir les caisses de Poste Finance. C'est la moitié moins qu'en 2009, année record due à la crise UBS. Mais ça reste énorme. En fait, les fonds déposés à la Poste ont quasi doublé en 5 ans. Pas étonnant dans ces conditions que les services financiers soient la vache à lait de l'entreprise. Poste Finance a contribué pour 60% au bénéfice de la Poste. C'est trop, selon le directeur Jurbucher. La Poste n'est pas une banque et surtout elle devient trop dépendante des bons résultats de ses services financiers. Les efforts d'optimisation vont donc continuer, notamment dans le secteur du courrier, dont le volume s'est encore tassé l'an passé, mais moins qu'en 2009, grâce à une reprise de la conjoncture. Et c'est ce contraste entre l'annonce de résultats records et les volumes volonté d'économie de La Poste qui hérisse les syndicats. Il réclame notamment un moratoire sur la transformation du réseau postal et une refonte du projet Distrinova, projet qui vise à mécaniser la dernière étape du tri du courrier. La Poste décidera du sort de ce projet avant l'été, mais le responsable a déjà assuré ce matin qu'il ne devrait pas y avoir de réduction d'emplois liée à Distrinova dans les 2 ans.
Une lettre piégée a visé ce matin le siège de Suisse Nucléaire à Olten. 2 employés, des femmes ont été touchées par l'explosion. Leur vie n'est pas en danger selon la porte-parole de la police, mais elles sont encore soignées à l'hôpital, notamment pour des blessures au niveau des tympans. Delphine Gendre, pour l'heure, la police du canton de Soleure ne dévoile aucune piste.
Non, elle informera plus en détail dans l'après-midi, pour autant qu'il y ait du nouveau, car pour l'instant, la police n'a pas pu identifier qui se cachait derrière cette lettre. Elle a fait appel au service scientifique de la police zurichoise. Mais selon toute vraisemblance, cette attaque est politique. Elle vise les intérêts du nucléaire, dans un climat déjà très tendu. Suisse Nucléaire, c'est un groupe dépendant de Suisse Électrique qui s'engage en faveur du fonctionnement des centrales. Il s'agit en fait de la fédération des exploitants des 5 centrales nucléaires suisses, comme Axpo ou Alpiq. Alpiq qui, hasard du calendrier, était sous le feu des critiques de Greenpeace ce matin. Une 30aine d'activistes ont manifesté devant son siège, qui se trouve aussi à Olten. Ils demandaient un retrait du projet de construction de nouvelles centrales, mais l'organisation de défense de l'environnement se distancie de l'attaque à la lettre piégée qui a visé Suisse Nucléaire.
Delphine Gendre en direct de Zurich. Et puisqu'on parle du nucléaire, les forces motrices bernoises dont dépend la centrale nucléaire de Mühleberg ont pris des mesures de sécurité supplémentaires suite à la catastrophe de Fukushima. Ces responsables l'ont annoncé ce matin à Berne. Aujourd'hui, elles ont fait part au Conseil fédéral de leurs conclusions suite à l'audit supplémentaire demandé à Doris Leuthard au sujet de la sécurité de la centrale nucléaire. Mais les FMB refusent d'en dévoiler le contenu, Muriel Balaman.
Oui, elles laisseront l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire tirer ses propres conclusions. L'IFSN va évaluer les explications des FMB portant sur la sécurité sismique et le système de refroidissement séparé pour les bassins de stockage du combustible. Ce dont les FMB ont abondamment parlé, en revanche, c'est de la réévaluation de leur stratégie concernant l'approvisionnement en électricité. Elles parlent de remise en question. Si la centrale nucléaire de Mühleberg devait être arrêtée aujourd'hui pour des raisons politiques, les FMB devront recourir à une production d'énergie fossile, qu'il s'agisse de courants importés ou produits dans de nouvelles centrales à gaz en Suisse. Une autre piste consisterait à relancer des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Il leur faudra du temps, disent les FMB, 1 an pour redéfinir leur stratégie, et cela pour autant que les lignes politiques soient suffisamment bien tracées. Et à ce sujet, les FMB partent du principe que leur marge de manœuvre sera élargie dans l'ère post-Japon. Comprenez par là, nous ne pourrons plus produire d'électricité avec nos centrales nucléaires actuelles. Mais dans ce cas, laissez-nous libérer du CO2 dans l'atmosphère quand nous produirons cette électricité dans des centrales à gaz.
Muriel Balaman, en direct du Palais fédéral. À Genève, le procureur Yves Berthossard requit la prison à vie pour le couple accusé d'avoir assassiné une jeune femme enceinte fin 2007. Ce crime est selon lui le plus odieux de ces 15 dernières années dans le canton de Genève. 90% des locataires vaudois sont satisfaits de leurs conditions de logement. C'est la principale conclusion d'une enquête publiée aujourd'hui par la Chambre vaudoise immobilière et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier. L'étude montre aussi que seuls 20% des locataires jugent que leur loyer est plutôt cher ou très cher. Le groupe technologique aérospatial et de défense suisse RUAG a réussi son redressement. Après une année noire en 2009, le bilan 2010 présenté ce matin à Zurich affiche un bénéfice net de 92 millions de francs. RUAG a restructuré ses divisions et équilibre mieux ses activités civiles et militaires. Dans ce secteur, justement, le groupe contrôlé à 100% par la Confédération a été vigoureusement critiqué pour avoir participé en février dernier au Salon des industries de la défense à Abu Dhabi. Frédéric Blassel.
Oui, et aujourd'hui à Zurich, le directeur général de RUAG, Lukas Braunschweiler, n'a pu que répéter ce que tout le monde sait, à savoir que le salon d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, est un salon international qui aurait aussi bien pu se tenir à Satory en France qu'à Farnborough au Royaume-Uni, d'une part, et que c'est un événement récurrent, planifié de longue date, bien avant l'éclosion du printemps arabe, d'autre part. Interpellé par la radio suisse romande sur la question de savoir si aujourd'hui des produits ou des services de RUAG sont utilisés pour réprimer le printemps arabe, Lukas Braunschweiler réaffirme que son groupe industriel s'en tient strictement aux prescriptions de Berne sur les exportations de matériel de guerre. Mais, il n'entre pas en matière sur la possibilité de voir son deuxième plus grand acheteur de matériel militaire, l'Arabie Saoudite, revendre certains équipements à d'autres pays arabes. À Berne, des parlementaires s'opposent à des restrictions supplémentaires, dès lors, disent-ils, qu'elles profiteraient à des concurrents européens notamment. Le Proche-Orient et le Moyen-Orient ne représentent toutefois que moins de 2% du chiffre d'affaires de Rouag, qui travaille à 96% pour des clients en Suisse, en Europe et aux États-Unis.
Frédéric Blassel, en direct de Zurich. Les jours du régime libyen sont comptés après la démission hier du ministre des Affaires étrangères Moussa Koussa, a déclaré l'ex-ministre libyen de l'immigration qui a quitté le pays mi-février. Les forces fidèles au colonel Muammar Kadhafi ont reconquis hier le terminal pétrolier de Ras Lanouf et son proche d'Ajdabia. Face à cette poussée, les insurgés ont une fois de plus reculé dans le désordre, comme l'explique Xavier Yvon, envoyé spécial de RTL sur place.
Quand les rebelles ont avancé très très vite pendant deux jours grâce au recul des troupes de Kadhafi, il n'y avait personne en face d'eux. Ils ont repris du terrain quasiment sans combat sur, 200 kilomètres. Mais c'est à partir du moment où ils se sont heurtés à des premières positions défensives de Kadhafi que tout allait railler. Et on n'a franchement pas vu d'organisation militaire. D'ailleurs, les rebelles ne connaissent en gros que deux techniques militaires. Soit ils maintiennent une position sur cette grande route qui traverse le désert. Il y a la mer à droite et les à gauche, soit les rebelles mettent des positions sur cette route, soit ils fuient en pagaille. C'est les deux techniques militaires qu'ils maîtrisent. Et on voit bien qu'en face, ils ont affaire à des gens très organisés, des vrais soldats qui tentent des embuscades, qui font des manœuvres par les flancs, qui les attaquent ainsi. Et quand on demande aux rebelles, mais pourquoi vous ne faites pas comme ces forces fidèles à Kadhafi, vous ne tentez pas des embuscades, vous ne tentez pas de les déborder par le désert, par les flancs, eh bien ils nous disent oui, certains officiers qui sont passés de notre côté viennent nous dire qu'il faut que nous fassions ce genre de technique, ils viennent nous conseiller, sauf qu'on ne les écoute pas parce qu'on n'a pas vraiment confiance puisqu'ils étaient officiers déjà sous Kadhafi.
Des propos recueillis par Marc Decret. Bonjour Gilles Labarthe.
Bonjour.
Ethnologue, journaliste, nous parlerons avec vous dans quelques minutes de votre essai d'investigation intitulé Sarko l'Africain. Tout d'abord, une réaction sur la Libye. Vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage les relations entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi. On sait que les Français ont été les premiers, en tout cas, à bombarder les structures de Muammar Kadhafi, des pro-Kadhafi en Libye. C'est un coup médiatique, ça, selon vous ?
Je pense que c'est un coup médiatique parce que en 2007, on se rappelle que Sarkozy avait fait son premier voyage lors de son premier déplacement en Afrique en tant que président. Il avait commencé par visiter donc le colonel Kadhafi et pour lui proposer des contrats, notamment sur le nucléaire, sur l'armement, etc. Et puis ensuite, il l'a reçu à Paris. Il s'est fait humilier par le colonel Kadhafi, toujours sur fond de promesses de contrats. Donc on a un volte-face complet par rapport à cette relation-là. Et puis aujourd'hui, on le voit bomber le torse et essayer de prendre le devant de la scène internationale sans se soucier du lendemain. Parce que finalement, cette opération-là, on ne sait pas à quoi ça va mener. Il y a même des risques justement que ça vienne appuyer davantage des groupes terroristes comme ACMI au Maghreb.
Gilles Labarthe, restez avec nous. Hein. On va parler de la Côte d'Ivoire aussi. Le premier port d'exportation de cacao au monde, San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, aurait été pris ce matin par les forces du président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara. Les forces continuent de progresser vers Abidjan. Hier, au centre du pays, c'était la capitale politique Yamoussoukro qui était tombée sans combattre entre les mains des forces d'Alassane Ouattara, comme a pu le constater Ali Bamba Abdulrazak, journaliste indépendant. Il est sur place à Yamoussoukro.
Les deux entrées principales du côté de Bouaké, du côté d'Abidjan, sont occupées par de nouvelles forces. J'ose les appeler comme ça puisque il n'y a pas de treillis, il n'y a pas d'uniforme précis. C'est seulement des bouts de treillis avec des paires de baskets, parfois des soldats bien mieux habillés les uns que les autres. Mais il faut dire que la ville est calme ce matin, la ville est calme, les personnes vaquent à leurs occupations. J'ai constaté que le marché est ouvert, les magasins ont ouvert, également il y a du monde dans les rues. Bon, apparemment la population est très contente, j'ai interrogé quelques personnes qui semblent très très contentes de des forces républicaines. Il n'y a pas vraiment de présence militaire à l'intérieur de Yamoussoukro. On a l'impression que tout le pays est en train de basculer du côté de Ouattara, bien sûr, parce que si les forces pro-Ouattara ont pu progresser aussi rapidement, c'est dû à l'allégeance que leur font les forces présentes dans ces villes-là, surtout des forces qui sont dans les localités conquises.
Gilles Labarthe, vous connaissez bien l'Afrique, vous vous y êtes rendu plusieurs fois. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est un peu en train d'oublier la crise en Côte d'Ivoire, puisque d'autres crises sont sur le devant de la scène aujourd'hui ?
On l'a mise de côté comme on a mis de côté les mouvements de contestation au Burkina Faso, comme on a mis de côté aussi d'autres mouvements de contestation en Afrique subsaharienne qui ont été vraiment occultés par l'actualité, en plus l'actualité de la catastrophe nucléaire au Japon. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une situation qui est très ambiguë de la part de la France, sachant que d'un côté, on a un président qui est plutôt proche de Ouattara, mais ses principaux conseillers sur l'Afrique et ses principaux conseillers officieux, comme Robert Bourgi, lui, est proche de Gbagbo. Donc on a aussi des intérêts français au niveau économique, et le régime Gbagbo a très bien soutenu, par exemple, deux entreprises phares de l'industrie française, à savoir Bolloré et Bouygues en Côte d'Ivoire.
Gilles Labarthe, on vous retrouve donc dans quelques minutes pour parler de votre essai d'investigation Sarko l'Africain. Tout de suite.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Daniel Knopfel et l'ancien gardien Pascal Zuberbuller ne seront pas les repreneurs de Neuchâtel Xamax. L'entrepreneur balois qui prétendait avoir trouvé en février dernier un investisseur pour le club annonce aujourd'hui qu'il n'a pas abouti dans ses démarches pour la reprise de la direction du club avec le président de ce club, Silvio Bernasconi. 140 spécialistes militaires américains en radiation nucléaire vont être prochainement dépêchés au Japon pour aider les Japonais. Le groupe d'énergie nucléaire français Areva prévoit d'augmenter son soutien technique à la compagnie japonaise TEPCO pour stopper la pollution radioactive. Même si c'est encore difficile à mesurer, le drame que vit actuellement le Japon pourrait avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire. Qu'en est-il en Suisse? Peut-on encore manger des sushis par exemple, les yeux fermés? Rouven Guessa s'est rendu à Voidance, dans le canton de Fribourg, dans une usine de fabrication de sushis. Visite des lieux avec le patron, Marc Durst. Sa société livre chaque jour des milliers de barquettes à la grande distribution.
Vous allez rentrer dans les zones hygiénisées. Donc vous allez vous enfiler tout ça.
Ok, donc c'est le corps entier en fait.
Voilà, le corps entier.
Les jambes.
Le tout. Donc pour l'instant, vous êtes équipé avec une combinaison complète, avec des protections pour les pieds et un masque. Et puis maintenant, on va encore continuer, on va se laver les mains, on va se désinfecter les mains. Et puis ensuite, on pourra rentrer en production.
Donc là, on prend l'ascenseur, on descend d'un étage.
On descend d'un étage, exactement. Donc ici, on est dans une zone, on prépare toutes les mises en place, toutes les masses qui vont rentrer dans la fabrication du sushi. Ça, c'est du thon haché.
Il vient d'où, ce thon ?
Ce thon vient des Maldives, du Sri Lanka, des Philippines.
Donc ça veut dire que le sushi qu'on mange en Europe, le poisson qui est dedans, ne vient pas du Japon ?
Du tout, non, du tout.
Il vient d'où ?
Alors, le thon, je viens de vous en parler. Ensuite, vous avez le saumon qui vient de Norvège ou qui peut venir d'Écosse, ça dépend un peu des fournisseurs. Vous avez du kingfish qui vient d'Australie, qui peut venir de Nouvelle-Zélande. Vous avez des crevettes qui peuvent venir de Thaïlande, donc voilà, c'est un peu les sources.
Donc dans les barquettes, il y a du wasabi. Le wasabi, en revanche, avec la catastrophe au Japon, ça vous pose plus de problèmes.
Alors aujourd'hui, effectivement, on a déjà identifié quels étaient les différents produits qui venaient du Japon. Le wasabi en est un. Les petites doses de sauce soja sont un produit également. Les emballages, les graines de sésame et le vinaigre de riz. Donc, on a constitué des stocks, des réserves pour 6 à 8 mois. Donc voilà, on a des alternatives.
Alors Marc Durst, vous êtes le patron de Sushi Mania ici à Vuadens. On est de retour dans votre bureau. Est-ce que depuis la catastrophe japonaise, vous avez constaté une baisse dans vos commandes ?
Alors absolument pas. Les peurs liées à ça sont tout à fait compréhensibles. Maintenant, les autorités compétentes ont mis en place un certain nombre de mesures. La plupart de nos produits, de toute façon, ne viennent pas du Japon. Et pour les produits concernés, il y a des pistes d'approvisionnement qui sont autres que celles du Japon. Donc, il ne faut pas faire un raccourci Japon, contamination, sushi.
Pas trop d'inquiétude à avoir, donc reportage de Rouven Guessa. Vous êtes toujours avec nous, Gilles Labarthe. Vous êtes venu donc nous présenter votre dernier livre, un essai d'investigation, Sarko l'Africain, sorti chez Hugo et compagnie. Comme son titre l'indique, vous décryptez, vous synthétisez les relations de Nicolas Sarkozy et l'Afrique. Puisqu'on vous a, entre guillemets, sous la main avant d'évoquer votre ouvrage, vous savez que Nicolas Sarkozy est à Tokyo. Aujourd'hui, il est en train de multiplier les déclarations. Les urgents arrivent de plus en plus sur les dépêches. Il propose une réunion des autorités nucléaires des pays du G20 en mai prochain à Paris pour définir une norme de sécurité nucléaire internationale. On a parlé du coup médiatique libyen. Il se met aussi sur le devant de la scène japonaise, en fait.
C'est aussi une manière, bon, on a parlé de la Libye et du coup médiatique, c'est aussi un coup politique dans le sens où ça fait oublier la débâcle des affaires intérieures en France avec la débandade de son parti présidentiel, l'UMP, la montée du Front National, les problèmes sociaux et des grèves à répétition en France. Donc c'est la vieille recette classique quand on veut faire oublier les problèmes intérieurs, on focalise l'attention sur l'extérieur. Par rapport au nucléaire, il faudrait aussi juste rappeler que depuis son élection en mai 2007, Sarkozy s'est fait le promoteur du nucléaire français. Donc le leader du nucléaire français Areva, la société Areva.
Qui produit de l'uranium en Afrique d'ailleurs.
Qui produit d'ailleurs de l'uranium en Afrique, qui exporte du MOX, donc en fait un combustible d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium extrêmement délicat, on dira, c'est pas quelque chose pour les enfants. C'est exporté au Japon précisément. Donc derrière ce
voyage, il y a un enjeu économique aussi.
Il y a un enjeu de rappeler la sécurité et puis l'excellence du Made in France par rapport au nucléaire, alors que justement la centrale EPR est très contestée et puis que les quelques succès qu'il a eus dans ses ventes à l'étranger, moi je pense notamment en février 2008, il était en Afrique du Sud pour vendre de l'EPR, il est parti aussi, il a tenté de vendre de l'EPR à la Libye de Kadhafi, il a tenté la même chose en Égypte, la même chose en Arabie Saoudite, parce que chaque fois ça représente des contrats de plusieurs milliards d'euros, donc c'est vraiment un jackpot très estimable de ce côté-là. Maintenant, que faire après cette catastrophe nucléaire au Japon? Donc il faut tout miser sur la sécurité et puis rappeler que l'EPR est donc la centrale la plus sûre au monde. C'est un argument qui est démonté de toutes pièces par des écologistes, mais pas seulement, aussi par des spécialistes anglais d'ailleurs.
On va revenir à Sarko l'Africain. Vous êtes journaliste suisse, vous connaissez bien l'Afrique, vous vous intéressez aussi à Nicolas Sarkozy. Vous vouliez quoi? Démontrer que il n'y a pas vraiment une page blanche en ce qui concerne l'Afrique, c'est ce que vous expliquez dans son livre. En fait, ça fait bien longtemps que Nicolas Sarkozy observe l'Afrique et finalement bien avant son entrée à l'Élysée.
Oui, c'était casser cette sorte de mystification. On le présente comme page blanche par rapport à l'Afrique. On a beaucoup parlé du fait que c'est un continent qu'il n'aime pas. Ça, c'est une chose sûre. Il a toujours peur de prendre des coups quand il se déplace en Afrique. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est qu'on est à une année de la campagne présidentielle française de 2012. Et puis, c'est une manière de rappeler aussi aux candidats que ce détour par l'Afrique, la connaissance du dossier africain, des réalités africaines, est quelque chose de tout à fait essentiel pour un bon candidat. Et Sarkozy, lui, l'avait compris très tôt, d'autant plus qu'il a côtoyé la fin des années 70, il a côtoyé Charles Pasqua, mais aussi d'autres personnes qui l'ont formé, qui l'ont initié à l'Afrique progressivement. Et il a eu toutes les cartes en main, je dirais, connaissant ces arcanes secrètes des relations france-africaines. Il a eu toutes les cartes en main et il a choisi les meilleurs mentors africains, dont feu Omar Bongo au Gabon.
Avec le recul, en quelques mots, comment vous voyez la relation justement avec le président du Gabon, Omar Bongo, entre Nicolas Sarkozy? Ça a été quand même un peu son fil conducteur plusieurs années de suite.
Oui, c'est vraiment le doyen des chefs d'État africains qui était aussi, on l'a présenté comme une sorte de chef de syndicat de chefs d'État africains parce que finalement il avait beaucoup d'influence dans toute la région. Et puis, le fait d'être allié avec cet Omar Bongo, c'était une carte maîtresse. Alors après, il y a aussi tout un système d'obligations et de ce qu'on appelle des relations non seulement clientélistes, mais aussi clientélaires, dans le sens où il y a des dons et des contre-dons. Et finalement, Sarkozy s'est vite retrouvé pris dans un lacis d'obligations par rapport à ce chef d'État africain. Et ce qui explique aussi l'adoubement français par rapport au fils Ali Bongo qui dirige aujourd'hui le pays. On se rend compte qu'il y a une continuité complète. Et cette filiation-là, je souligne d'ailleurs dans le livre, c'est assez intéressant de le remarquer, la succession quasiment monarchique finalement de Ali Bongo par rapport à son père était déjà prévue dans les années 80, à un moment donné où Ali Bongo était venu à l'Élysée rencontrer Jacques Chirac et puis dire « ce serait intéressant qu'on puisse modifier la constitution pour en faire une constitution avec une monarchie héréditaire ».
Merci beaucoup Gilles Labarre d'être venu présenter ce livre très complet d'ailleurs, Sarko l'Africain aux éditions Hugo et compagnie, un livre donc bientôt déjà disponible d'ailleurs. Gilles Labarre, journaliste ethnologue suisse, merci d'avoir fait un détour par nos studios de Genève. Bonne journée à vous.
Merci à vous, bonne journée.
À la météo. Elle est signée Eric Faucher.
Une petite perturbation se profile dans notre ciel. Elle nous a apporté un ennuagement de plus en plus conséquent ce matin et cet après-midi, on attend des averses. Elles toucheront d'abord l'ouest du pays, notamment le Jura, puis se répandront ensuite à toutes les régions, limite des flocons à 2000 mètres. Les températures afficheront 15 à 17 degrés cet après-midi, isotherme du 0 à 2300 mètres. Dans le courant de la nuit, le temps redeviendra généralement sec et le ciel commencera à se dégager. Demain, la nébulosité résiduelle finira de s'évaporer en début de journée. Il restera Quelques nuages bas ou des bancs de brouillard locaux qui se dissiperont bien vite pour laisser la place à un temps bien ensoleillé, malgré quelques voiles nuageux en altitude. Le mercure affichera 8 degrés à l'aube et jusqu'à 19 voire 21 l'après-midi, le 0 degré remontera à 3000 mètres. Ce net réchauffement se prolongera pour le week-end. Samedi sera ensoleillé partout avec des maxima pouvant toucher les 22 à 25 degrés. Dimanche connaîtra quelques voiles nuageux l'après-midi. Sinon, c'est encore beaucoup de soleil qui nous attend.
La météo avec le Salon Immobilier de Lausanne du 31 mars au 3 avril.
Merci de votre fidélité sur la première. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous rappelle le rendez-vous de forum entre 18h et 19h. Et là, il est précisément 13h sur la première. À demain.